Merci beaucoup à Philippe et à notre équipe de louanges. C'était un temps de louanges très riche. Et au travers du psaume 33 que Philippe nous a proposé de parcourir et d'Hébreux 11, mais en fait, on s'est rendu compte que Dieu a tellement de qualités. On en a tellement, on a besoin de les louer, on a besoin de les chanter. Et ces qualités-là, elles nous aident chaque jour, quand on se les répète, à faire un petit pas en avant dans notre foi. Ça, c'était Hébreux 11. Et ben, je bénis le Seigneur parce que dans ce que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, alors qu'on ne s'était pas parlé, eh bien, il y aura beaucoup de qualités complémentaires qui vont arriver. Et on va cheminer justement avec tout ce que le Seigneur a en nous et pour nous. Donc pour cette semaine, je vous propose de lire... Tu ne l'as pas encore mis ? Voilà. Donc, quelques versets de Luc 12, qui sont des textes qui sont proposés par les églises chrétiennes. On va cheminer avec ces quelques versets. Donc, Luc 12, versets 32 jusqu'à 38. « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez tous vos biens et donnez-les par des actes de compassion. » Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mite ne ronge. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tenez-vous prêt, la ceinture au rein et les lampes allumées. Vous aussi, soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est vivante, tellement vivante. Elle l'était à l'époque où ces textes ont été écrits et elle l'est encore aujourd'hui. Elle travaille chacun de nos cœurs et souvent ce que l'on reçoit réponds à ce que mon frère ou ma sœur peut avoir reçu. Alors Seigneur, ce matin, je te prie pour que ce qui a été mis sur mon cœur puisse vraiment être, selon ton esprit, agissant, vivifiant, réconfortant pour mes frères et mes sœurs qui vont entendre ici ce message ce matin. Oui, c'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen. Alors quand on regarde ces quelques versets que je viens de vous lire, on voit qu'en gros, il y a trois étapes, on va décrire ça comme ça. Première étape, ne pas avoir peur. Ça commence comme ça. N'ayez pas peur ou n'aie pas peur. Deuxième étape, casser sa dépendance au bien matériel. Quelque part, prendre de la distance un petit peu avec ce que le monde peut mettre en avant. Et troisième étape, se tenir prêt. Alors, je vous propose de petit à petit les balayer les unes après les autres. Premier verset, le verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » J'avais lu, je ne sais pas combien de fois, ce verset-là, et en travaillant pour pouvoir préparer cette prédication, il m'a apparu d'une richesse énorme. Je vais essayer de vous partager ce que j'ai vécu, c'est difficile, mais je vais essayer de le faire. Alors pourquoi d'abord Dieu commence-t-il par nous inciter à nous libérer de la peur ? Parce qu'en fait, quand on n'a plus peur, alors c'est pas facile à y arriver tout le temps, hein, mais quand on n'a plus peur, on arrive à percevoir plein de choses qu'on ne peut pas percevoir quand la peur est là, parce que la peur prend toute la place. Et moi, je discernerai dans ce petit passage qu'on va lire, je dirais trois grandes choses, on va dire trois. La première, d'abord, n'aie pas peur, petit troupeau. C'est-à-dire, quand on n'a plus peur, on peut vraiment se percevoir et se reconnaître comme membre de son troupeau. Donc agir comme tel, agir comme une brebis qui est avec son berger. Et qu'est-ce qui caractérise l'attitude de la brebis, si je puis dire? C'est qu'elle fait confiance. Là où le berger l'emmène, eh bien elle suit. Donc la confiance en lui. Et Philippe en a parlé tout à l'heure. La foi, c'est la confiance, en fait. C'est la même chose. N'aie pas peur, petit troupeau. Donc, on est son troupeau et il est notre berger. Et c'est ancré vraiment dans notre cœur. Ça, c'est le premier point. Et ce qui est important, moi, je trouve souvent très, très important de se dire que souvent, la parole répond à la parole. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait quand vous la lisez. Quand on dit « j'ai confiance en Dieu parce qu'il est mon berger » et je considère vraiment que c'est mon berger, que je suis sa brebis et que je vais eh bien, le suivre. J'ai confiance en lui. Alors si j'ai confiance en lui, alors je peux lire le psaume 23. Vous connaissez le psaume 23, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Et donc du coup, eh bien, ça devient une réalité dans ma vie. C'est quelque chose que je prends à bras-le-corps, ce que disait tout à l'heure Philippe quand il parlait d'Abraham. On reçoit quelque chose de Dieu, on fait vraiment confiance en Dieu, donc on y va. On ne sait pas trop où on va des fois, mais on y va. Et bizarrement, ça se passe assez souvent très bien. Je vais juste vous donner un exemple qui nous est arrivé avec ma femme. On est rentré en métropole, on a passé quelques années à La Réunion, et au moment où on a été convaincu que c'était le Seigneur qui nous demandait de revenir, ça a pris un petit peu de temps pour qu'on le discerne, bizarrement, tout s'est mis en place. Je ne manquerai de rien. On avait un appartement à vendre, croyez-le, si vous voulez, eh bien, on n'a même pas passé d'annonce. C'est le voisin qui nous a dit, vous partez, je vous l'achète. Voilà. Et on est arrivé chez le notaire, on n'avait jamais parlé du prix. Au moment du rendez-vous du notaire. Voilà, et bien ça c'est le Seigneur, on fait confiance et il fournit, il donne. Bon, premier point, le berger. Deuxième point, qui est un point complémentaire, n'aie pas peur, petit troupeau, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc non seulement le Seigneur est notre berger, mais il est notre papa dans ce cas-là. Ça c'est assez fou quoi, on est les enfants de Dieu. Alors, ce qui est très intéressant et très, je pense, important dans ce cas-là, c'est, alors, si on a la chance d'être papa, comment moi j'agirais vis-à-vis de mes enfants? Quels seraient mes... Alors, ça marche pour la maman, évidemment, aussi, peut-être encore plus pour la maman. Mais comment j'agirais vis-à-vis de mes enfants? Est-ce que je leur voudrais du mal? Est-ce que je ferais quelque chose qui les amènerait dans de la souffrance ou quelque chose comme ça? Évidemment, non. Alors, combien plus Dieu, qui est notre Père, veut notre bien? Et quand on dit que Dieu nous aime, si on considère que c'est notre Père, Dieu, on ne peut pas considérer autre chose qu'il a de l'amour pour nous, évidemment. Ça, c'est quelque chose d'important. Et comme tout papa, ben, il va se soucier de nous tout le temps. Se soucier de nous par rapport à ce dont on a besoin. Pas forcément, et ça, si on est père ou mère, on s'en rend compte, c'est pas forcément par rapport à ce que l'enfant demande qu'il faut lui donner. Mais c'est par rapport à ce qu'il a vraiment besoin. Et Dieu agit comme ça. Et il agit toujours par rapport aux besoins qu'il a pour nous, par rapport au projet qu'il a pour nous, pour reprendre une phrase que tu as dit tout à l'heure, Philippe. Je vais vous donner encore un autre exemple qui est arrivé à mon épouse, Sylvie, il n'y a pas très longtemps. Elle était en train de prier et elle avait des questions qu'elle se posait. Et était posée sur ses genoux sa Bible. Et là où elle était, il y a eu un petit vent. Vous savez le petit vent, comme dans la Bible, un petit vent qui passe et qui s'est mis à tourner les pages de la Bible. Et pour une fois, eh ben, des fois on a tendance à vouloir arrêter. Là, Sylvie a laissé faire. Et ça s'est arrêté pile poil, si je puis dire, sur une page qui contenait exactement la réponse à la question qu'elle se posait. Voilà. Le papa avait été intervenu pour juste une petite chose. Tu m'as prié, tu m'as demandé quelque chose. À ma façon, je vais te répondre. Donc, Dieu est notre berger, Dieu est aussi notre Père. Mais dans ce verset, alors qu'on ne l'a pas encore fini, hein, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ça veut dire que s'il nous donne un royaume, c'est qu'il est roi. Alors, qu'est-ce que nous apporte le qualificatif de roi, en fait, pour Dieu, ben, en fait, c'est qu'il a la puissance de faire tout ce qu'il nous promet. C'est hyper important d'en avoir conscience. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, j'ai pris un exemple, je l'ai pris dans la Bible, celui-là. C'est, vous savez, combien de personnes ont vécu des choses extraordinaires. Ce que je voudrais juste vous proposer, vous savez, c'est le passage où Paul et Silas sont en prison. Et en fait, tout s'ouvre, tout se passe selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de les faire sortir. Ben, les portes s'ouvrent et ils peuvent sortir. Eh bien, vous savez, ça c'est Actes des Apôtres, hein, Actes 16, versets 25 et 26, si vous êtes intéressé par les références. Et on échangeait, on a vu un YouTube cette semaine avec Sylvie, enfin Sylvie en a vu, elle m'en a parlé, ça existe encore aujourd'hui. Et l'exemple qui a été partagé sur YouTube, ça se passe en Chine, et vous savez que les chrétiens en Chine sont quand même bien persécutés. Eh bien, il y a eu, je crois que c'est un prêtre catholique qui avait été emprisonné et qui a vécu exactement ça. On parle d'une expérience qui date de quelques années. Ce n'est pas des choses qui reviennent à 2000 ans. Donc, Dieu est agissant et agissant encore aujourd'hui. Voilà. Donc, berger, père et roi. Dans ce tout petit verset, ces trois éléments-là. Et ces trois qualificatifs sont différents, mais je trouve qu'ils se complètent. Et ça va venir compléter la liste qu'a commencé à nous faire Philippe tout à l'heure. Berger, un berger, il protège, il conduit, il apporte la nourriture. Le quotidien, quoi. Le père, il va un peu au-delà. Il apporte l'amour, il apporte la tendresse, mais il apporte aussi le cadrage, l'autorité, les soins, il prend soin. Et puis, il va un petit peu plus loin dans la conduite, parce qu'il y a la conduite physique du berger, mais il y a la conduite aussi dans l'attitude, dans les comportements, dans les relations aux autres. Ça, c'est le rôle du père, des parents, je pourrais dire. Et le roi, ben, c'est la puissance, la souveraineté, quand le roi dit, on fait, quand Dieu dit, on fait. Et puis, quelque part, aussi la richesse. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important parce que dans la foi, on a parlé de la foi tout à l'heure, tout abandonné pour le suivre. En fait, dans la foi, il y a aussi la conscience que si j'avance avec la confiance en Dieu, il sera là et je manquerai de rien parce qu'il a le pouvoir de me donner ce qu'il va me promettre. Voilà. Donc chaque jour, Dieu nous conduit, Dieu nous aime évidemment et il agit, il n'a pas de limite dans son action car il est puissant. Donc la seule chose, c'est que la clé de départ, c'est « N'aie pas peur, petit troupeau ». Et quand j'ai relu plusieurs fois ce verset, je me suis dit « Oui, c'est chouette tout ce qu'on a dit après, mais n'aie pas peur, est-ce que ça dépend de moi de me libérer de ma peur? Est-ce que j'ai la capacité de me libérer de la peur ?» Je ne sais pas si vous avez vécu des peurs dans votre vie, mais quand une peur est là et qu'elle nous assaille, c'est très très difficile de s'en libérer. Le Seigneur peut nous y aider, bien sûr, il va nous y aider, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Et dans ces moments-là, la Bible souvent peut venir à notre secours. Et je vous propose juste un verset, je le lirai deux fois, parce que parfois, se répéter des versets, ça peut nous aider justement dans des étapes où on a besoin de nous libérer de quelque chose. C'est Ésaïe 41, 10. Je vais vous le lire deux fois. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, berger, père, roi. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je vais vous le redire une deuxième fois. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc si on en a besoin, n'hésitons pas à nous le répéter souvent. En préparant, je l'ai écrit et je vais le garder sur mon bureau, ce verset-là. Voilà, donc quelques éléments sur simplement le premier verset de ce que l'on a lu aujourd'hui. On va continuer avec les versets suivants, versets 33 et 34, qui nous incitent quelque part à mettre un petit peu en pratique toute cette confiance qu'on peut emmagasiner quand on prend vraiment, quand on mâche et on remâche toutes les qualités que le Seigneur peut avoir pour nous. Verset 33. « Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mite ne ronge. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » J'ai relu deux ou trois fois, puis moi je bute toujours un peu sur « vendez vos biens ». C'est toujours un peu difficile pour moi. Alors, en creusant par rapport à ça, je me suis demandé quelle mise en pratique, en fait, le Seigneur peut attendre de nous quand il nous écrit, quand il nous dit ces deux versets. « Vendre ou donner tous ses biens, nous déposséder quelque part totalement, avant de se mettre à sa suite, est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que c'est toujours vrai ?» Et je pense que oui, c'est vrai dans certains cas. Il y a des gens qui ont eu cet appel-là. Regardons par exemple André, Pierre, Jacques et Jean, les pêcheurs. Eux, ils ont posé leur barque, ils ont laissé le père, les filets, tout le bazar, et ils se sont mis à la droite, à la suite de Jésus. Si on peut aussi prendre l'exemple de Matthieu, qui lui encore avait une position peut-être encore plus enviable. Il était dans une position qui lui donnait une certaine richesse, un certain pouvoir. Il était mal vu par ses pères, mais il avait quand même une bonne condition, on va dire, de vie. Là, pareil, il n'a même pas posé de questions, il a suivi. Et si on regarde même dans les chrétiens plus récents, alors il y en a plein d'exemples, Philippe en a listé tout à l'heure, enfin, a dit que dans Hébreux 11, il y en a beaucoup qui sont listés, mais même après, si on regarde, j'ai pris un exemple plus proche de nous pour vous montrer que ça existe encore. Alors là, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est autour de l'an 1200, je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle François d'Assise, un Italien. Et lui, il était fils d'un marchand qui était très riche. Il a reçu l'appel de Dieu, il s'est mis à sa suite, et dans son appel, il a reçu qu'il fallait qu'il se dépouille de tout. Et voilà. Et donc, ben, il s'est mis à la suite, et il a créé un mouvement qui vit encore aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y avait des fruits. Donc de temps en temps, oui, c'est utile, parce que l'appel de Dieu peut nous appeler à nous déposséder de tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça ne peut pas forcément s'appliquer à tout le monde. Et je voulais le dire ce matin parce que pour moi, quand j'ai constaté ça, ça m'a rassuré. Voilà. Donc je me suis dit que peut-être certains ou certaines d'entre vous seraient aussi rassurés par ça. Donc Dieu peut nous appeler à la pauvreté, c'est vrai, mais ce n'est pas systématiquement le cas pour tout le monde. Alors dans ce cas-là, si ce n'est pas un appel à la pauvreté, à quoi Dieu peut-il nous appeler? Alors je vous propose peut-être trois points qu'on pourrait regarder ensemble par rapport à ça. C'est qu'en fait, ok, on n'est pas forcément appelé systématiquement à laisser tous nos biens, mais par contre, là où Dieu nous attend tout le temps, c'est ne jamais en être esclave des biens. On peut en avoir, parce que l'argent peut être utile, peut faire plein de choses bonnes, mais encore faut-il qu'on ne soit pas esclave de ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si on devient esclave de l'argent, vous savez, on ne peut pas suivre deux dieux en même temps. Il y a un verset qui nous dit ça. Donc, je vais m'attarder là un petit peu plus sur le verset 34. « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » C'est ça, justement. Quand on met notre cœur dans quelque chose, on ne peut pas le mettre à 36 endroits, le cœur, quoi. Et c'est un petit peu ça, je pense, ce que ce verset veut dire. Donc, le verset ne dit pas forcément que posséder est mal en soi, mais être dépendant de ce que l'on possède, ça veut dire que c'est le bien qui nous possède dans ce cas-là. C'est-à-dire que les choses sont renversées, et ça, par contre, ce n'est pas souhaitable, et Dieu nous met en garde par rapport à ça. Alors peut-être, pour savoir où on en est, en tous les cas, moi, j'ai été incité à ça, peut-être se poser des questions bien concrètes. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles ces jours-ci, il y a des incendies gigantesques, je pense à l'Aude notamment. Et quand je voyais cette femme qui pleurait parce que sa maison était partie en fumée, ça m'a amené à me poser la question. Et si c'était ta case, ta maison qui partait en fumée, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que tu serais complètement abattu, ce qui était le cas de cette femme? Ou est-ce qu'avec l'aide de Dieu, tu aurais à cœur de pouvoir remonter? Je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Mais en tous les cas, je pense que c'est important de se la poser quand même, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment voir l'attachement ou le détachement qu'on peut avoir par rapport aux biens matériels. Voilà. Donc, ne plus être esclave des biens, c'est quelque part, je pense, un travail un peu tous les jours. Donc, c'est le premier point, ne pas être esclave des points matériels. Deuxième point, se mettre dans l'attente du royaume et faire une entière confiance à Dieu. Philippe nous en a beaucoup parlé ce matin, on s'est rejoints sur beaucoup de points tous les deux. C'était, vous savez qui c'est ? Donc ce passage, pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut faire un petit zoom arrière. On était dans Luc 12 là, mais si on prend le chapitre entier de Luc 12, dans des versets précédents, il y a un verset qui dit « Ne t'inquiète pas de la nourriture, ne t'inquiète pas de tes vêtements ». Vous savez, l'histoire des corbeaux, des moineaux, etc., qui valent pas grand-chose, mais le Seigneur est là et fait attention à chacun d'entre eux. Et s'il nous a dit, dans le verset 32, qu'il avait trouvé bon de nous donner le royaume, alors à ce moment-là, eh bien, on peut se mettre dans une position vraiment d'attente, de confiance, c'est de se tourner vers lui. Mais se mettre en position vraiment de se tourner vers le royaume, quand on regarde bien le texte, il y a quand même les quelques versets avant qui nous parlent déjà de la confiance en Dieu. Se mettre en attente et se tourner vers le royaume ne peut fonctionner qu'après que notre confiance ait pleinement été mise en Dieu. C'est mis dans cet ordre-là, dans ce passage. C'est important de le souligner. Et une fois qu'on aura bien cette confiance en Dieu, on pourra beaucoup plus facilement, évidemment, se libérer de notre attachement et tout ce qui va nous entraver, quoi, que ce soit les biens matériels ou autre chose. Voilà. Et pour ce qui est de la confiance en Dieu, en préparant la prédication, j'arrivais pas encore vraiment pleinement à voir ce que ça pouvait comporter, ce que le Seigneur pouvait vouloir nous dire au travers de ce mot « confiance en Dieu » ou « foi », pour reprendre le mot que tu as dit tout à l'heure. Alors j'ai cherché, et en cherchant, j'ai trouvé cinq petits points, cinq petites clés que je vais vous partager. Ça pourra peut-être vous aider, en tous les cas. Je pense que le Seigneur, s'il les a mis sur mon cœur, c'est parce qu'il a à vous les partager. Donc je vais le faire. Premier point, une certaine paix intérieure. Dans la confiance, il y a ça. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. C'est exactement ce que tu as dit à propos d'Abraham tout à l'heure. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais j'avance et je choisis de rester en paix parce que je sais que Dieu m'est fidèle, la fidélité de Dieu. Encore un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Je choisis, je décide. La décision, ça peut nous appartenir. Je décide de. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider à la paix intérieure. Je décide de ne pas regarder les infos si je suis anxieux par rapport au problème qu'il y a en ce moment. Je décide de, c'est moi qui choisis, de faire, de ne pas faire, de lire, de ne pas lire, d'écouter, de ne pas écouter, de parler avec d'autres qui vont partager ça ou pas. Je choisis de le faire. Donc la décision. Deuxième point, très souvent, quand on a des éléments à prendre, des décisions à prendre qui nécessitent qu'on fasse confiance, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer, ce que tu nous disais tout à l'heure, Philippe, ce qui peut être important, c'est de commencer, au lieu tout de suite d'essayer de rentrer dans la chose et de la maîtriser soi-même, c'est de commencer par un temps de prière, prier. Parce que quand on commence à prier, alors je ne le fais pas tout le temps, hein, mais quand le Seigneur me donne me bénit au point de me permettre de faire ça, bien souvent la réponse arrive par lui. Mais je ne le fais pas tout le temps. Mais bon, il nous invite à ça, je pense, c'est quand un problème survient, je lis mon texte là, je choisis de prier plutôt que de chercher à prendre le contrôle. Parce que si c'est moi qui prends le contrôle, ben, Dieu ne peut pas le faire. Donc prions d'abord. Ça, c'est le choix. Choisir de prier plutôt que de me plonger tout de suite dans la gestion de la chose. Troisième élément, qui est un élément important, je pense aussi, dans la confiance, c'est lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Ça, moi, c'était... Le Seigneur, petit à petit, arrive à me guérir de ça, ça prend du temps. Mais il y a des choses dans une situation difficile, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra jamais agir. Et on a tendance à vouloir tout prendre en compte. Donc, laissez tout simplement dire, je vais lâcher prise parce qu'il y a des choses que je ne contrôle pas, mais si moi je ne les contrôle pas, le chef, il les contrôle là-haut. Et donc, du coup, ben, je lui laisse de la place pour pouvoir agir, pour pouvoir intervenir. Ça, c'est un petit peu de l'humilité. Et je ne vous cache pas que c'est un des points sur lesquels j'ai encore à travailler. L'humilité, donc. Décider, choisir et faire preuve d'humilité. Et puis ensuite, persévérer, ne pas se décourager. Parce que parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, ne vient pas tout de suite. Donc, pensez à continuer. Jésus, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Est-ce que tu foncerais tout de suite? Ou est-ce que de temps en temps, comme il est dit dans la parole, tu te mets à l'écart, tu pries et t'attends le contact avec ton Père, t'attends que ton Père te donne un petit peu le sens de ce que tu dois faire? Si Jésus le faisait, alors ben, je peux le faire aussi, quoi. Voilà, donc dans ce cas-là, ce que je vais mettre plutôt en avant, c'est une attitude de demande, me mettre en attitude pour demander à Dieu, pas vouloir tout de suite faire, mais d'abord demander. Et puis le dernier point qui découle un peu du précédent, c'est que bien souvent, quand on se met, enfin en tous les cas c'est vrai pour moi, quand je me mets en route avec des réflexes qui sont les réflexes du monde. Et parfois, ce n'est pas la bonne direction, parfois ce n'est pas la bonne chose. On n'a plus d'argent, mais peut-être que le peu d'argent qu'on a, si on le donne, ben ça, et ça, le monde ne le fera jamais. Mais par contre, Dieu peut nous appeler à ça. Voilà, je viens de subir une épreuve, c'est ce que j'ai marqué. Et puis, bien souvent dans ces cas-là, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément la situation, puis qui sont là, prompts à donner des conseils. Est-ce que c'est ces conseils-là? Ou est-ce que ça serait peut-être pas mieux de me mettre un peu dans la parole pour voir ce que me dit le Seigneur par rapport à cette situation? Si en plus il fait tourner les pages comme tout à l'heure, ça sera encore plus facile, n'est-ce pas? Donc là, je dirais que le mot-clé que j'ai retrouvé par rapport à ça, ça serait plutôt patienter puis prendre le temps de discerner. Donc si je le remets, les cinq éléments, la paix intérieure, ça c'est de la décision. La prière au lieu de s'inquiéter, ça c'est un choix. Lâcher prise et ne pas chercher à tout contrôler, ça c'est se mettre en arrière-plan, faire preuve d'humilité. Persévérer, ne pas se décourager, à ce moment-là ça serait plutôt penser à demander. Et puis ne pas suivre les réflexes du monde, ça serait plutôt patienter et demander à Dieu qui nous aide à discerner. Donc voilà pour tout ce qui est mise en pratique, je pense que c'est quelques clés en tous les cas qui m'ont beaucoup fait cheminer moi. Donc ben, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et le dernier point, vous savez, dans les trois points, il y avait se tenir prêt à la fin. Alors je vais lire les quatre versets qui sont contenus dans cette partie. Tenez-vous prêt, la ceinture aux reins et les lampes allumées. Vous aussi, soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Alors, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'implique le fait de se tenir prêt? Ça, c'est, je trouve, intéressant. Alors, je vous propose là encore une lecture en plusieurs points, quatre points. D'abord, être spirituellement éveillé. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, la ceinture, c'est le propre de la personne qui s'habille pour partir. Et la lampe allumée, vous savez que la lampe, c'est souvent le symbole qu'on donne à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est là pour nous aider justement à nous mettre en route. Donc, si on fait ça, ça veut dire qu'on est un peu comme un... Dans notre tête, on est un peu comme un voyageur, prêt à partir à n'importe quel moment. Et en réfléchissant à ce que j'étais en train de vivre là, moi j'ai trouvé que c'était un extraordinaire élément de vie. Être toujours prêt à se mettre en route, donc en mouvement. Alors non seulement de vie, mais peut-être aussi de vie intérieure, parce que quand on agit comme ça, ça veut dire qu'on est souvent dans la prière, qu'on est souvent dans l'action vis-à-vis de Jésus. Et ça, je trouve que c'est important. En tous les cas, c'est un élément que j'ai retenu. Deuxième point, vivre chaque jour comme un serviteur fidèle. Fidèle, on l'a utilisé plusieurs fois ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire la fidélité ? Un serviteur fidèle, dans la parole, quand on en parle, alors d'abord un serviteur honnête, qui ne cherche pas à cacher des choses à son maître, et celui qui enterre et puis qui vient le ressortir après, il y avait quand même la notion de cacher là-dedans. Mais aussi de gérer au mieux ce que l'on a, ce que le Seigneur nous a mis à disposition. Et ça, je trouve que ça nous permet de faire la paix par rapport, vous savez, à vendre tous vos biens tout à l'heure, à se déposséder. Ce que l'on a, peut-être que le Seigneur nous amène à le garder pour qu'on puisse en faire un bon usage, une bonne utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite qu'on le fasse chaque jour. Pour que la gestion soit bien faite, elle doit être faite au quotidien. Donc là, le mot-clé, je dirais que c'est la régularité. Quelque chose que l'on fait régulièrement. Troisième point, c'est avoir le cœur qui est tourné vers le royaume de Dieu et non pas vers le monde. Alors ça, c'est un peu difficile parce qu'on vit dans le monde et évidemment, les choses du monde ont tendance à se rappeler à notre bon souvenir très régulièrement. Et là, quelles sont les valeurs qui sont mises en avant par Jésus ? Ben, on regarde dans la parole, c'est la parole qui va nous le dire. Et ce que l'on peut faire au quotidien, c'est peut-être se dire, dans mon cœur là maintenant, quelles sont ces valeurs-là ? Qu'est-ce que tu ferais, Jésus, dans la situation où je me trouve ? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ? Et si je réfléchis, si je parcours un petit peu ta parole, qu'est-ce que toi, tu ferais dans cette situation ? Et parfois, on peut être surpris de ce que l'on va trouver. En tous les cas, c'est quelque chose que je ne fais pas encore assez, mais que je vais essayer de faire plus souvent, ça. Et ça, je dirais que c'est une notion de cohérence. Ajuster, en fait, ce que l'on a dans notre cœur, ce que l'on a envie de faire par rapport à ce que Jésus ferait ou dirait. Et le quatrième et dernier point, c'est croire que Christ peut revenir à tout moment. Alors ça, c'est un peu à double tranchant, parce que ça peut amener de la peur. Dieu va arriver, je me mets à frémir, comme tu disais tout à l'heure, et du coup, je me mets en mouvement, mais par la peur. Je ne crois pas que ce soit à ça, en fait, que la parole nous appelle là, mais plutôt de se dire, je dois rester vigilant, parce que la vigilance, c'est quelque chose qui amène justement à être en éveil, et ça ramène les trois autres points en avant, si vous voulez. Donc, la vigilance, je le vois vraiment comme ça. Rester toujours prêt, parce que ça peut arriver à tout moment, et que, non pas que j'ai peur, mais voilà, je dois vraiment être dans une attitude d'éveil permanente. Et ça, pour écouter le Seigneur, c'est une attitude qui est évidemment une attitude importante. Voilà. Et donc là, avec ces quatre points, je les rappelle rapidement, donc la vie intérieure, la spiritualité d'un être éveillé, ensuite la régularité, vivre chaque jour comme un serviteur fidèle, la cohérence, avoir le cœur tourné vers le royaume plutôt que vers le monde, et la vigilance, en se disant que Dieu peut effectivement revenir à tout moment. Et un élément que je vais rajouter, que je n'avais pas mis dans la préparation, mais qu'à la relecture là qui m'a marqué, c'est le verset 37. « Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. » Deuxième partie, écoutez bien. « Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. » Ça ne veut pas dire que ceux qui n'étaient pas prêts, eh bien, il ne les accueillera pas forcément, mais ceux-là, ceux qui étaient prêts, il se mettra avec eux à table et il viendra les servir. Voilà, je ne vais pas en développer plus, mais je trouve que c'est intéressant de le mettre un peu en évidence. Donc en conclusion, si vous voulez, pour reprendre ce passage d'évangile qu'on vient de lire, Jésus nous enseigne à ne pas avoir peur, on en a parlé tout à l'heure, parce que ça ouvre plusieurs portes, mettre en pratique ces enseignements et entre autres se libérer d'un certain nombre d'éléments qui peuvent nous rendre un petit peu esclaves. Et troisièmement, nous tenir prêts. Voilà pour ces quelques versets. Je vous invite à prier. Seigneur, mon Dieu, je viens avec toi, avec mes peurs et puis avec mes inquiétudes aussi. Parce que parfois, Seigneur, la peur s'accroche, il est difficile de s'en défaire. Mais, comme on l'a dit ce matin et comme le palmiste le dit aussi, je te cherche. Je crois que tu me délivres de toutes mes frayeurs. psaume 34. Merci Seigneur de m'aider chaque jour à mettre en pratique tes enseignements, à me libérer de toute dépendance excessive au bien et à me conduire vraiment dans une pleine confiance en toi, dans une vraie attitude de foi. Et j'ai besoin de toi pour cela, Seigneur. Seigneur, tu me demandes aussi de me tenir prêt. Alors aujourd'hui, Seigneur, à cet instant, je me tourne vers toi et je parle. J'y dis « je » parce que c'est chacun d'entre nous. Je me tourne vers toi, Seigneur, et je te demande, pour moi, aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que veut dire « se tenir prêt » ? Quels sont tes plans pour moi, Seigneur ? Et en quoi est-ce que tu me demandes de me tenir prêt ? Oui, Seigneur, j'ai confiance dans le fait que tu me répondras. Je suis prêt à persévérer, à patienter pour pouvoir bien discerner ta réponse. Mais merci Seigneur de me le dire, de me parler. Et merci de me guider. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen.